Monseigneur André Vintre, bonjour.
Bonjour madame.
Voilà, vous êtes à Rome et vous accompagnez un pèlerinage de séminaristes de l'archidiocèse de Paris.
Voilà, nous faisons ce pèlerinage à peu près tous les 4 ans, de façon que chaque séminariste ait la possibilité d'y participer au moins une fois.
Voilà, et donc et ce mercredi, vous avez participé à l'audience générale présidée par Benoît XVI.
Oui.
Et quelles sont tout d'abord vos impressions sur cette audience générale et sur la manière dont Benoît XVI entretient ce contact avec des foules très importantes, toujours très importantes?
Oui, c'est très joyeux d'abord, et très serein, très calme, comme le pape.
Alors au début de ce pontificat, beaucoup relevaient que ce pape serait beaucoup moins médiatique que Jean-Paul II. Il se trouve que les fidèles viennent toujours très nombreux au rendez-vous. La participation aux audiences générales et aux Angélus cette année a quasiment doublé. Comment voyez-vous, comment analysez-vous cette situation, ce phénomène ?
Mais il y a deux éléments qui peuvent entrer en ligne de compte, je pense. Le premier, c'est évidemment certaines découvertes de la personne de Benoît XVI, de sa personnalité, de son potentiel personnel, son originalité. C'est un homme qui diffuse la sérénité, la paix dans le Seigneur, et donc je pense que c'est quelque chose à quoi nos contemporains sont sensibles. Mais je pense que plus largement, il faut voir dans cet attachement à la rencontre avec le Saint-Père un signe de reconnaissance et de dévotion à la mission du pape, car on se rappelle que aussi bien Paul VI, mais plus encore Jean-Paul II, qui avait des foules considérables qui se déplaçaient pour le rencontrer, soit à Rome, soit dans ses voyages. Les chroniqueurs religieux, surtout en France, avaient tendance à dire « mais c'est un phénomène charismatique, c'est parce qu'il est acteur, c'est parce qu'il sait susciter l'enthousiasme des foules, etc. etc. » Et puis on se trouve, c'était possible d'ailleurs, et puis on se trouve maintenant avec un pape qui n'est pas du tout acteur, qui n'a pas du tout le charisme de la provocation, de l'enthousiasme, etc. Et on a les mêmes phénomènes. Et donc ça veut dire que ça ne tenait pas à la personnalité de Jean-Paul II, mais bien à la mission qui était la sienne, et celui qui a hérité de la mission hérite aussi de ce contact avec la foule, et je pense aussi que pour un certain nombre, c'est une manière peut-être réduite d'exprimer un certain attachement à la foi chrétienne, même si par ailleurs ils ne sont pas très pratiquants.
Alors Monseigneur XXIII, nous sommes au début d'une nouvelle année, et je vais vous poser une question d'usage, on va dire. Est-ce que vous avez des priorités ? Est-ce que vous avez des domaines d'activité qui vous semblent plus importants pour l'année qui s'ouvre, des préoccupations que vous voudriez partager avec nous?
J'ai beaucoup de préoccupations. La principale préoccupation, c'est d'annoncer l'Évangile et donc d'encourager, de susciter, de soutenir, de développer les initiatives missionnaires dans les différentes communautés chrétiennes de mon diocèse. L'annonce de l'Évangile, c'est pas très compliqué. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui annoncent l'Évangile. Et donc, pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui annoncent l'Évangile, il faut qu'eux-mêmes vivent de l'Évangile. Il faut qu'ils soient dynamisés par cet Évangile et motivés pour le partager avec d'autres. Ça, c'est l'objectif permanent de mon ministère. Et puis, il y a des objectifs plus particuliers l'année 2007 en France, puisque ce sera une année électorale importante, comme vous savez, puisque nous élirons successivement en 2007 le président de la République et les députés, et en 2008 il y aura les élections municipales et régionales. Donc ça veut dire que sur ces 2 années, tous les responsables élus importants de notre pays seront choisis. Ce qui va déclencher évidemment une compétition âpre, non seulement pour la présidence de la République, où la compétition se réduira à quelques personnes, mais pour les élections législatives, c'est plusieurs milliers de candidats qui vont se présenter au suffrage. Et donc, ça peut être une chance pour notre pays et pour la démocratie d'avoir un temps où tous ces gens vont être obligés d'expliquer ce qu'ils veulent faire, quels sont leurs programmes, quels sont leurs objectifs et quel avenir ils se proposent de réaliser s'ils sont élus. Mais ils ne feront cela que s'ils y sont acculés, car en général, les candidats aux élections, quand ils sont honnêtes, répugnent à trop parler de l'avenir parce qu'ils savent que l'avenir, ils ne le maîtrisent pas. Et donc, pour les motiver à s'expliquer, il faut leur poser des questions, il faut aller les chercher, il faut les agiter un peu, les provoquer pour leur faire dire quelque chose sur des sujets très importants. Il y a des chantiers importants dans notre vie sociale qui méritent que l'on sache qu'est-ce que les futurs élus pensent et qu'est-ce qu'ils sont prêts à voter ou à ne pas voter. On peut parler des lois de bioéthique qui seront en cours de révision, des questions qui concernent la famille, des questions qui concernent l'environnement, l'écologie, la protection de la nature, des questions qui concernent une distribution plus juste du travail, des questions qui concernent aussi le modèle de société dans lequel on va s'engager à travers l'Europe. Est-ce qu'on va s'engager dans une société protectionniste qui va mobiliser toutes ses forces pour préserver son opulence, ou est-ce qu'on va s'engager réellement dans une société de partage, etc., etc. Toutes ces questions, je les ai formulées, comme je le fais en ce moment à plusieurs reprises, avec différentes personnes ou dans des prises de position publiques, mais évidemment, il faudra que les électeurs fassent comprendre aux candidats que c'est là-dessus qu'ils vont voter et que c'est leur conviction sur ce sujet qu'ils attendent.
Alors les évêques ne donnent pas de consignes de vote, bien entendu. La France est un pays laïque depuis plus d'un siècle. Mais comment l'Église peut-elle faire entendre sa voix dans une période électorale comme celle-ci ?
Eh bien, nous avons plusieurs manières de faire. La première, celle que nous avons déjà mise en œuvre, c'est-à-dire que le Conseil permanent de la Conférence épiscopale a publié un texte au mois de novembre, qui est un texte référence par rapport à la période électorale et qui évoque justement tous les chantiers sensibles sur lesquels il faudra bien prendre des décisions. Ensuite, il y a les interventions publiques qui existent quand même. Quand je prêche à la messe de minuit, j'ai évidemment quelques milliers de personnes devant moi, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats quand ils parlent en public, mais j'ai aussi des auditeurs et des téléspectateurs, et donc je touche quelques dizaines de milliers d'électeurs. Donc je peux dire un certain nombre de choses. J'essaye de le faire, et mes confrères évêques de la même façon. L'Église est la seule organisation en France qui réunit chaque semaine plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc nous avons la possibilité de faire passer un message. Et ensuite, eh bien, nous avons des chrétiens qui sont électeurs et qui doivent faire savoir qu'ils sont électeurs. Et puis nous avons des chrétiens qui sont engagés dans les structures de la vie politique, de la vie publique, soit comme administrateur ou fonctionnaire, ou comme élu, et qui doivent eux aussi porter leur témoignage à travers les domaines dans lesquels ils sont engagés. Ce qui veut dire donc que, sans donner de consignes de vote, nous avons une capacité, je dirais une capacité d'influence, et peut-être que certains diraient une capacité de nuisance qui n'est pas tout à fait négligeable.
Tout juste une dernière question. On reproche parfois aux chrétiens en Europe, surtout, de ne pas savoir se faire entendre sur la scène publique, de manquer un petit peu de courage. Est-ce que vous partagez cette opinion ?
Je ne suis pas sûr que le courage chrétien se mesure à l'expression publique. Pour moi, le courage chrétien, c'est-à-dire la force que Dieu met en nous, c'est d'abord pour nous appeler et nous donner les moyens de vivre l'Évangile. Et de ce point de vue, sans doute, un certain nombre de chrétiens manquent de courage, et je l'ai dit au cours de la messe de minuit à Notre-Dame. Je crois qu'il y a, parmi nos contemporains, mais parmi les chrétiens de façon plus sensible encore, une sorte de lâcheté morale, et qu'il faut sortir de cette lâcheté morale. Ça demande du courage, savoir si on va accepter de désigner ce qui est bien, ce qui est mal, et si on va prendre les moyens d'essayer de faire ce qui est bien, de corriger ce qui est mal. Ça demande un courage considérable dans sa famille, dans sa propre vie, dans sa vie personnelle, quand on regarde comment on vit. Ensuite, dans sa famille, des parents à l'égard de leurs enfants, des frères à l'égard des frères et sœurs, etc. Bien. Ensuite, la question de savoir si on prend position publiquement, ça dépend davantage de la manière dont s'organise la vie apostolique. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans des mouvements, qui participent à l'action de ces mouvements. Et puis, il y a des gens qui annoncent l'Évangile, tout simplement, comme ça, voilà. Mais les manières d'annoncer l'Évangile sont très différentes, mais ce qui compte, c'est est-ce que nous sommes prêts à le vivre ?